Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de votre quinzomadaire radiophonique préféré. Enfin, c'est ce qu'on espère ce soir encore. On va parler de nouveaux regards, nouvelles histoires, mais aussi de nouveaux talents, évidemment. On va parler d'îles désertes et d'histoires d'hommes. Mon invité est écrivain. Mais avant de commencer, est-ce que vous croyez vraiment que l'amour est plus fort que tout ? Je ne sais pas si Katrina et Hans se sont un jour posé cette question, mais ce soir, j'avais envie, pour commencer, de vous parler de Kéros, un roman écrit par une autrice de l'ex-Allemagne de l'Est, parce qu'on ne parle jamais assez de la littérature allemande en général. Tout commence donc par ce qu'on appelle d'habitude un coup de foudre un soir de 86 à Berlin-Est. Katrina et Hans se rencontrent par hasard dans un bus. Bon, il y a une petite particularité, c'est que lui a 34 ans de plus qu'elle, qu'il est marié, il a un enfant, il est écrivain et un poste à la Radio Nationale. Un peu comme Radio Campus, mais pas vraiment. Enfin bon, elle est étudiante, elle vit chez ses parents et se cherche encore. Tout commence donc pour le mieux entre les deux qui vivent une véritable passion fusionnelle. Mais bientôt, la vie va les séparer. L'homme qui se partageait jusqu'alors entre deux femmes vivra en effet très mal que la jeune femme rencontre un jeune homme alors qu'elle est partie étudier loin de Berlin. Commence alors la révélation de son dont on se doutait un peu quand on pense passion, c'est-à-dire une emprise suffocante et sadique. Vous me direz peut-être qu'on a déjà lu ça, mais sûrement pas comme ça et pour au moins deux raisons. La première, c'est par l'écriture de l'autrice qui réussit à rendre sensibles les étapes de cet amour, de la fusion joyeuse à la suffocation, grâce notamment à un jeu subtil sur les pronoms personnels qui est particulièrement passionnant. Oui, je sais, je n'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour et elle peut paraître bizarre et pourtant je la maintiens. Il y a un jeu sur les pronoms personnels particulièrement passionnant. De même, l'emprise est aussi une question de mots, de rabâchage, de répétition, jusqu'à ce que justement les mots perdent leur sens. Et puis l'autre raison, c'est qu'on est en Allemagne en 86, et si vous l'avez oublié, 86, c'est 3 ans avant la chute du mur de Berlin. Et ce n'est pas anodin, car Hans, le fameux Hans, est un personnage important de ce régime. Il est venu vivre à l'Est après avoir grandi à l'Ouest, après la guerre, donc il a fréquenté l'élite intellectuelle. Et dans ce pays où le pouvoir abuse, il est lui aussi un rouange, créant un effet d'écho étonnant entre l'intime et le politique. Les pages finales sur l'espèce de gueule de bois des Allemands de l'Est ayant retrouvé la liberté sont d'une profonde justesse. Malgré les apparences, ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas un roman d'amour, c'est l'un et l'autre. Et c'est bien plus que cela. Je crois qu'on a entendu mon enthousiasme. Ça s'appelle Kéros, c'est signé Jenny Erpenbeck et c'est publié aux éditions Gallimard dans une traduction de l'allemand par Rose Labourie. Voilà, les invités ne devraient pas tarder. En tout cas, on va écouter un peu de musique et on se retrouve tout de suite sur Radio Campus Paris.
It doesn't hurt me, yeah, yeah. Do you wanna feel how it feels?
Kate Bush, Running Up That Hill. Et j'ai une bonne nouvelle, on a gagné contre les embouteillages parisiens et contre la porte de la radio. Notre invité est arrivé. Bonjour Carice Davis.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Ben merci à vous d'être venu. Vous êtes l'autrice donc de Éclaircie, un roman paru aux éditions Quai Voltaire, qui a été traduit par David Faucambert. C'est un roman traduit en anglais, mais comme on vient de l'entendre, vous parlez français. On va quand même dire deux mots. Hein. Votre éditeur affiche sur la quatrième de couverture des citations « Excusez du peu » d'Hernan Diaz, d'Annie Proulx, mais aussi de l'actrice Sarah Jessica Parker. Et puis on va quand même juste citer le New York Times Book Review, quand même la bible des gens qui aiment lire, un roman audacieux à l'écriture libérée et aux réflexions essentielles, pour vous dire à quel point on est fiers de vous recevoir ce soir à ce micro. Vous êtes ce soir à Radio Campus Paris, et pour être complet, je dois ajouter que vous venez d'obtenir le prix du meilleur livre étranger 2025. Alors j'ai été regardé, depuis sa création en 1948, on compte parmi ses récipiendaires, bouchez-vous les oreilles si vous êtes modeste, Heinrich Böll, Robert Musil, Laurence Durel, John Updike, Alan Hollinghurst, pardon. J'ai cherché une autre femme et je dois dire que c'est un prix assez masculin. J'ai quand même trouvé il y a quelques années l'américaine Nicole Cross, et donc désormais vous aussi, Carice Davis. Bravo, félicitations, on est très fiers pour vous. Votre roman, on va y revenir après, se déroule en grande partie sur une île déserte, enfin quasi déserte. Et en France, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en Angleterre chez vous. D'ailleurs, vous êtes plutôt écossaise, ou que je ne fasse pas d'erreur?
Non, je ne suis pas écossaise.
Vous êtes plus au Pays de Galles,
hein, je suis galloise, voilà.
D'accord. Donc,
mais j'habite à Edimbourg.
C'est un très bon choix. En France, on a une sorte de jeu où on demande aux gens ce qu'ils emporteraient sur une île déserte. Alors vous, qu'est-ce que vous emmèneriez? Est-ce que d'abord, ça existe ce jeu chez vous?
Demander
ce qu'on emporte sur une île.
Ah oui, oui, oui. Sur une île déserte. Moi, je crois que j'emporterais le dictionnaire de la langue norme qui a inspiré ce roman. Je ne l'aurais jamais écrit sans ce dictionnaire.
On va y revenir. Alors, Éclaircie aurait pu s'appeler comme un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est un peu l'histoire de ce livre, puisqu'il raconte l'histoire de deux hommes qui se retrouvent à cohabiter sur une île du nord de l'Écosse. L'un y habite et l'autre vient pour le chasser. Ça, c'est le point de départ. Et justement, ce que vous racontez au départ, c'est que tout commence parce que vous découvrez cette langue disparue.
Voilà, oui, je travaillais un soir dans ma bibliothèque locale, et je suis tombée tout à fait par hasard sur ce vieux dictionnaire, 10 000 mots recueillis à la fin du 19e siècle. De cette langue, j'avais jamais entendu parler de cette langue éteinte, et je suis devenue tout à fait obsédée par ce livre pendant une dizaine d'années. Je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire là-dedans, mais je ne savais pas ce que c'était. Et petit à petit, j'imaginais cet homme isolé qui parlait cette langue.
C'est ce qui vous intéresse au départ. Hein. Ce que j'essaie de savoir, c'est est-ce que c'est la langue elle-même et son mystère, ou
oui.
Et aussi,
oui.
Donc, du coup, la vie de cet homme qui avait eu l'idée de retranscrire et de savoir comment on en arrivait
oui.
à faire un dictionnaire
oui.
pareil.
C'est parce que ces mots, pour moi, ils évoquaient un environnement naturel d'une richesse et d'une subtilité incroyable, et en même temps une vie plutôt féodale, et à la fois des émotions vivantes et éternelles.
Oui, parce que c'est ça qu'on découvre, c'est que les mots changent selon les émotions des personnes. En fait, il y a quelque chose comme ça. Nous, on dira l'océan pour eux quand on voit l'eau, mais eux, ils ont toute une gamme de mots.
Voilà.
Selon, je vous laisse raconter plus que moi.
Voilà. Et petit à petit, le pasteur John Ferguson, qui vient chasser cet homme qui s'appelle Ivor. Petit à petit,
ça c'est pas la vraie histoire.
Oui, ça c'est le roman.
Ouais, pardon.
Oui.
Non, c'est pour que les gens qui nous écoutent. qui n'ont pas forcément.
Ah oui,
pardon.
Oui. Et petit à petit, il commence à regarder le monde, la vie, à travers ces mots, cette langue.
Il y a aussi tout un contexte économique que moi je ne connaissais pas du tout. Mm-hmm. On a presque l'impression, autant sur certains côtés on s'aperçoit que c'est une histoire qui a plus d'un siècle, presque un siècle et demi. Mm-hmm. Il y a un contexte économique qui est très proche de celui qu'on vit aujourd'hui, avec des hommes qui possèdent la terre et qui veulent la rentabiliser et
oui.
qui décident que ces gars-là qui sont sur des îles, ils servent plus à rien.
Oui.
On va mettre des moutons, on va les virer, on enverra quelqu'un 3 fois par an et ça sera bien suffisant.
Voilà, oui, absolument. Je m'intéresse dans tous mes romans, il y a des gens qui convoitent la terre sur laquelle d'autres vivent. C'est toujours ce qui m'intéresse.
Je vous lis, je lis un extrait. Hein, vous écrivez, pardon. Parce que j'ai pas le début. on parle de portions de terre où l'on pourrait, du haut d'une colline ou d'une éminence, contempler des terres immaculées, productives, tranquillement peuplées de moutons et non encombrées par les masures délabrées de petits locataires démunis et peu fiables, dont le labeur assurait tout juste la subsistance, sans dégager aucun profit, ce qui n'avait plus aucun sens. Il y a déjà cette idée que ça n'a pas de sens. C'est très étonnant. Hein.
Oui, oui. Ça pourrait être contemporain, oui.
Alors, votre roman, je voulais vraiment qu'on commence par planter tout ce décor de cette découverte de ce dictionnaire.
Mm-hmm.
Ça vous a travaillé pendant 10 ans quand même. Je reviens sur ça parce que ça m'impressionne que pendant 10 ans,
oui,
on pense à ça.
Oui, pendant ce temps, j'ai écrit 2 autres romans. Mais toujours, cette histoire, elle était dans mon cerveau quelque part, dans mon imagination, et petit à petit, je me suis rendu compte ce que c'était l'histoire.
Je voudrais pas trop qu'on révèle, parce qu'en plus c'est un livre court,
oui.
où il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a tout ça en 200 pages et bien d'autres choses, parce qu'il y a aussi un contexte religieux, on va peut-être
oui.
pas s'étaler dessus.
Oui.
Mais ce que je voulais, entre à quel moment vous avez le fil que vous tirez un peu comme Ivar, puisque lui, il tisse de la laine, il file de la laine même.
Oui.
Vous, à quel moment, c'est un personnage que vous trouvez qui vous permet de passer au roman ? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites « Ah, ça y est, là, je vais y arriver
» Moi, je ne sais jamais ce qui va se passer dans mes romans. Si je le savais, je n'aurais aucun intérêt à les écrire. Alors, je pouvais voir cet homme isolé, et puis j'ai écrit scène après scène, et petit à petit, j'ai observé.
Vous avez vraiment tissé, vous avez fait votre fil, comme le personnage,
voilà,
vraiment.
Voilà.
Alors, on va pas trop parler de l'histoire, parce que je le redis, c'est un roman court avec beaucoup de... C'est pas des coups de théâtre, mais des surprises. Enfin, en tout cas, mm-hmm. qui nous emmène là où il veut.
Oui, et c'est moi qui étais surprise en l'écrivant. C'est toujours comme ça.
Vous êtes d'abord surprise.
Oui.
Il y a 3 personnages. Est-ce que vous pouvez nous les présenter d'abord? Il y a Ivar,
oui.
dont vous en avez un peu déjà
oui.
parlé. Qui est Ivar?
Oui. Alors, Ivar, il ne connaît pas d'autre
endroit.
Endroit que l'île. Et il y est tout seul depuis 20 ans, depuis la mort de son père et son neveu, qui sont morts de faim. Parce que la vie est difficile. Hein. C'est pas du tout une vision romantique de la vie sur cette île. Et sa mère, sa grand-mère et la femme de son frère mort, elles sont parties parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais il ne voulait pas partir. Il ne pouvait pas imaginer d'autres vies.
Il y a jeune.
Et John, c'est un pasteur de l'église nouvelle presbytérienne d'Écosse. Et il vient de se marier. Et ce qu'il faut dire, c'est que il vient de l'église écossaise vient de se scinder. Voilà. Et John, il a renoncé à son église, à sa maison, à sa vie, et il est sans le sou. Et c'est pour ça qu'il a accepté cette mission un peu bizarre d'aller expulser Ivar.
Et puis il y a Marie.
Et puis Mary, oui, sa femme. Mary, je l'adore. Mary, elle est courageuse, pragmatique. Elle a de l'imagination et elle est prête à prendre des risques.
Est-ce que c'est pas elle la véritable héroïne du livre ?
Oui,
moi,
je crois.
Moi, j'en suis presque
oui,
sûr.
Oui, je crois.
Est-ce que vous diriez que vous avez écrit un livre féministe ? Ou ce n'est pas du tout les termes que vous vous posez ? Vous écrivez d'abord une histoire ?
Je ne dirais pas féministe, mais ce qui m'intéresse, c'est d'observer la vie d'une femme à une époque historique, avec toutes les contraintes qu'elle aurait vécues. Parce que je pense que souvent dans la littérature historique, il y a une tendance de donner trop de pouvoir aux femmes.
Ah oui.
Alors Mary, elle se mène dans un cadre assez étroit, mais elle fait grand chose avec.
Ouais, elle fait beaucoup de choses avec. Elle,
oui.
Elle a pas peur d'y aller. C'est ce que elle prend les décisions, elle affronte les choses. C'est pas une femme soumise. Elle est.
Oui.
Quand elle sent que l'histoire, qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe parce qu'elle a plus de nouvelles alors qu'elle en avait régulièrement.
Oui.
Elle prend le bateau, elle y va et elle a pas peur.
Oui. Oui. Dès le début, elle est vraiment la conscience morale. Du
pasteur, c'est ça
oui.
qui est étonnant.
Oui.
C'est qu'il y a, parce qu'il y a en fait un homme qui est très concret, qui est Ivar, qui est un homme d'action, qui est sur son île, qui tous les jours doit trouver de quoi faire à manger. Il y a le pasteur qui est peut-être plus dans les idées.
Oui.
Et elle est un peu le lien
oui.
entre les deux, en fait. Elle est,
oui.
c'est à la fois, elle est très concrète, hein, elle parle de choses concrètes, elle ne se perd pas dans...
Oui, des objets. Quand John... Il commence à apprendre la langue d'Iva, c'est à travers les objets tout à fait concrets, c'est vrai. Mais il y a beaucoup qui ne se disent pas entre eux. Mmh. Il y a bien sûr des silences. Ouais.
Alors vous vous amusez aussi avec le lecteur ? Moi, j'ai trouvé, il y a de l'humour, et puis il y a eu deux passages. Il y en a un que je n'ai pas retrouvé, j'ai relu, j'ai recherché, j'arrive pas à le retrouver. Mm-hmm. Mais il y a un moment où, quand même, je pense qu'on peut le dire, on est premier tiers du roman. Je ne sais pas si on peut le dire. Enfin, en tout cas, il y a un personnage qui perd la mémoire, et vous écrivez. Alors, parce que ce personnage se demande ce qu'il aurait demandé à son meilleur ami, et vous dites. Le grand lecteur qu'il était serait sans doute plein de cette mode chère aux plus mauvais romanciers contemporains d'infliger à leurs personnages des pertes de mémoire aussi catastrophiques que prolongées. Là, vous jouez avec nous, vous nous faites un clin d'œil.
Mais c'est parce que au début du roman, c'est vrai que John, pendant quelques jours, il perd sa mémoire. Et quand j'écris une histoire, je n'aime pas. Tricher le lecteur, et je pense que c'est une
facilité.
C'est
trop...
Oui, c'est une tricherie d'utiliser une perte de mémoire. Alors, il reprend sa mémoire très vite, mais il y a quelques jours là où il ne sait pas pourquoi
bien,
il est venu. Oui.
Et parce que parce que vous aviez besoin qu'il soit en fait que les deux soient égalité finalement.
J'avais besoin que John c'était Ivar qui commence à soigner et il fait tout pour John et c'est pour ça que John se sent il a peur de dire, d'expliquer à Ivar pourquoi il est venu.
Mais surtout qu'au début, il ne peut pas, puisqu'il ne maîtrise pas la langue. Donc,
oui, c'est vrai. Oui.
Il est très embêté. Mais il essaye par un mime, il y a un moment, une scène assez drôle aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est bien évidemment votre style, parce que vous êtes, donc je le redis une troisième fois, c'est un roman assez court, où tous les mots comptent. Moi, il y a des passages que j'ai relus pour être sûr d'avoir bien compris que je ne m'étais pas trompé dans ce que je croyais avoir compris. Rien n'est jamais souligné. Vous écrivez directement comme ça ou vous effacez beaucoup après, comme souvent les gens qui écrivent court?
Oui, il y a beaucoup de pierres par terre, si vous voulez, quand j'écris. Mais j'ai commencé à écrire des nouvelles pendant 20 ans. Je n'ai écrit que des nouvelles. J'ai écrit 3 romans, mais ils sont tous très courts. Et je les écris plutôt comme des nouvelles, où il y a une forme assez serrée. Et comme vous dites, où chaque mot
est important.
Est important.
Mais il y a aussi ce que vous choisissez de ne pas dire, qu'il faut comprendre.
Oui.
Ça, c'est un travail. Aussi, c'est vous qui le voulez. Ça, c'est votre...
Oui,
ça passe. J'ai envie de dire presque que c'est moral, c'est esthétique. Enfin,
oui, c'est mon sujet, si vous voulez. C'est parce que souvent, dans mes romans, les personnages, ils ont des secrets. John, il a ses secrets. Ivan, lui-même...
Bah, d'ailleurs, on ne les connaît pas tous à la fin du livre. Il leur en reste.
Oui, mais c'est le lecteur qui connaît beaucoup plus que les personnages. Et dans ces... Il y a des trous de connaissances, mais c'est la magie de la fiction. On peut montrer au lecteur ces distances, ces trous entre les gens. Et c'est la réalité, quoi.
Ça veut dire que vous sous-écrivez, alors je ne sais pas très joli, je ne sais pas comment on dirait ça en anglais, understatement, underwrite, mm-hmm. d'une certaine
oui.
façon, pour
oui.
laisser de la place au lecteur. C'est une forme d'acte de générosité. Vous voulez laisser une place au lecteur?
Oui, il faut jamais sous-estimer le lecteur.
Alors, je reviens à Ivar et John. Ils sont sur cette île déserte, enfin sur cette île quasi déserte. Il faut que j'arrête de dire qu'elle est déserte. Mm-hmm. Ils ne parlent pas du tout la même langue.
Non,
je me suis demandé à un moment si vous aviez eu envie, je sais pas si vous aviez une envie théorique d'écrire un roman sur la traduction. Oui, c'est un peu ce que vous dites, puisque vous êtes parti d'un dictionnaire. C'est l'histoire de la traduction, votre livre, finalement. Comment on s'est mis à traduire une
oui,
langue?
Oui, c'est vrai, mais en fait, il faut dire qu'au début de l'histoire, après l'arrivée de John sur l'île, je me suis dit, mais voilà, un grand problème pour moi, comme écrivaine. J'ai 2 personnages qui ne savent pas se parler.
C'est génial, c'est alors, génial. Pour un écrivain, c'est génial.
Mais c'est aussi difficile. Alors... Oui. Parce que ça doit être réaliste. Alors, John, il commence à apprendre la langue, mais il ne peut pas trop faire en quelques semaines.
On est au 19e siècle dans votre livre. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de portable. Aujourd'hui, on imagine qu'avec un peu de réseau, une bonne appli, on pourra bientôt, nous, on n'aura plus besoin de ça. Alors, on pourra traduire quasiment en direct avec l'intelligence artificielle.
Oui.
Ce qu'on va y gagner est évident, mais vu votre livre, j'avais envie de vous demander, à votre avis, qu'est-ce qu'on va y perdre? Si demain, on a pu ce travail pour traduire que tout est fait automatiquement par des machines?
Parce que ce n'est pas seulement les mots qu'on perd, on perd toute une façon de regarder le monde, une culture. Et j'ai lu quelque part que dans le monde aujourd'hui, il y a 7000 langues, oui. mais on perd une langue toutes les 2 semaines. C'est incroyable, mais je trouve ce chiffre déchirant, vraiment.
Est-ce que c'est aussi un roman que vous avez écrit comme galloise, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes galloise, il y a une langue galloise.
Oui, oui, voilà. Et quand j'étais petite, quand je suis née au Pays de Galles, et personne que je connais ne parlait le gallois. Mais maintenant, mes neveux, mes nièces, ils sont tous bilingues, parce que la langue vit.
Il y a une envie de la préserver, qu'elle ne finisse pas comme le Norse.
Oui, oui, voilà. Et je viens d'être à Saint-Sébastien, en Espagne, et c'est la même chose avec le Basque.
Il y a encore des gens aujourd'hui sur des îles qui parlent des langues très, très locales, parce que là, cette langue, elle était visiblement parlée sur quelques îles,
oui.
Qui sont vers les Shetland. Hein. On est encore plus loin, plutôt.
En fait, le dialecte moderne des îles Shetland, il y a toujours des mots nornes dedans, mais la langue même est perdue.
Elle est perdue.
Oui.
Ça vous rend triste vous aimeriez la connaître?
Oui, oui, ça me rend triste.
Je crois qu'on parle, je vois le temps qui passe, mais c'est pas grave, on a un peu de temps, on peut en profiter. Qu'on parle un peu de la place des animaux dans votre livre, et notamment de la vache PJ.
Oh.
Parce qu'on sent bien que vous les aimez, les animaux. Alors, s'il y a bien une chose où je pense qu'on sent l'écrivain dans le roman, c'est notamment sur cette place, sur ces regards que vous avez sur le monde végétal, animal, sur la nature.
Oui, tout le monde me parle de. Il y a dans ce roman, il y a une vache aveugle et tout le monde me parle de cette vache.
Je suis désolée de être originale. Non, mais vous avez.
Oui.
Aimé cette vache. Je sais pas comment dire.
Vous
avez appris peut-être à l'aimer au fil du temps.
Je n'ai pas d'animaux moi-même, mais quand je pense à la vie d'Iva, ses rapports avec les animaux, ils sont très importants. Il parle à son cheval, à la vache.
Comment se place votre roman aujourd'hui dans la production?
Excusez-moi.
Je suis désolé, en plus on n'a pas le droit de mettre rentrée d'eau dans le studio maintenant. Il est très strict. Comment se place votre roman dans la littérature britannique contemporaine cette année en France? Alors, je crois que vous êtes depuis quelques mois en France. On a beaucoup parlé d'une rentrée littéraire qui était beaucoup autour de récits familiaux, d'un déclin entre guillemets de la littérature d'imagination. Est-ce que vous, votre livre, il est dans ce qui se fait aujourd'hui majoritairement au Royaume-Uni? Ou est-ce que vous êtes un peu atypique?
Peut-être. Oui, peut-être. Mais pour moi, je écrire le mémoire, ce n'est pas comme ça que je...
C'est parce que vous intéresse.
Non, je ne voudrais pas écrire de ma vie, de ma propre vie.
Et pourtant, ce livre, il parle de vous, forcément.
Ah, bien sûr, bien sûr.
On le voit bien, là, il va de...
Il y a de moi dans tous ces personnages, voilà.
Excusez-moi. Ouais, je vous en prie, de toute façon, on arrive à la fin, donc tout va bien. Je voulais juste savoir, vous pourriez écrire en français? Parce qu'on voit, on entend, vous parlez très bien français.
Ah, mais non.
Est-ce que vous avez pu lire la traduction et donner votre avis?
Oui, bien sûr, oui, c'est une très belle traduction. Et j'avais même l'impression de ne pas avoir écrit le roman. Et il y a une scène très importante, pivotale, dans le roman. Et je l'ai lu et j'étais vraiment bouleversée quand j'ai lu cette scène en français.
Je comprends, je vois très bien, je crois voir laquelle dont vous parlez. Pour finir, je vois l'heure qui tourne malheureusement. Est-ce que selon vous, aimer quelqu'un, c'est toujours apprendre à parler sa langue pour vous et peut-être en créer une nouvelle à deux? Est-ce qu'aimer quelqu'un, c'est toujours apprendre à parler aussi sa langue?
Vous pouvez répéter la question.
Oui, elle est compliquée peut-être. Est-ce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on apprend aussi à parler comme lui? Est-ce qu'on apprend sa langue?
Ah bon.
Je crois qu'on va rester sur ce silence magnifique. C'est peut-être la plus belle réponse. Non, je ne sais pas, vous voulez dire. Ou peut-être se créer une langue à deux.
Non, c'est difficile parce que je pense que parler une autre langue, dans un sens, on peut presque devenir une autre personne. Ça donne une sorte de liberté. Alors je pense que pour quelqu'un comme John Ferguson, ça pourrait lui donner une liberté qu'il n'a jamais éprouvée.
Oui, parce qu'il a tous ses cadres qui changent à ce moment-là.
Oui.
Et il est obligé de tout réapprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, attendez. Carice Davis, je redonne le titre de votre livre, Éclaircies, c'est aux éditions Kevolter, et c'est le nom du traducteur que je voulais retrouver. Il s'appelle, et voilà.
David Faucombeau.
Voilà, merci. David, qu'il me pardonne. Merci beaucoup d'être passé par notre studio. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Merci de m'avoir invité.
Je crois que vous restez encore quelques mois en France.
Ah oui, jusqu'à la fin de mai, l'année prochaine.
Et bien, je vous souhaite encore beaucoup de bons moments et peut-être d'autres prix, allez savoir. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
C'était La Relève, elle était préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Simon. Cette émission et toutes les précédentes, sont disponibles sur le site de Radio Campus Paris. À 19h, vous retrouvez la matinale de Radio Campus Paris. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve dans 15 jours. On sera déjà en décembre. Allez, bonne soirée. Same.